Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un tableau emblématique de la Renaissance, la naissance de Vénus, peint en 1484 par Sandro Botticelli. Ce tableau de grande taille, 2,80 m de large sur 1,80 m de haut, est conservé à la Galerie des Offices à Florence, le plus ancien musée du monde. Il s'agit d'un tableau peint sur une toile, fixé par deux panneaux de bois, à tempéra, c'est-à-dire par des pigments de couleur liés entre eux par un lien qui au Moyen-Âge est souvent du lait d'ânesse ou du blanc d'œuf. Il a été peint par Sandro Botticelli, je l'ai déjà dit, ou plutôt devrais-je dire Alessandro di Mariano di Vanni Filippi, car c'est sous ce nom que l'artiste naît en 1444 dans le Borgio, c'est-à-dire le quartier, hors San Michele à Florence, dans une famille modeste, puisque son père était tanneur. Alessandro est transformé en Sandro, et son surnom de Botticelli, Petit Tonneau, il le doit en fait au maître orfèvre chez qui il a appris son art, qui était lui surnommé Botticello. Botticello, là aussi, Petit Tonneau, en raison de l'embonpoint de ce maître orfèvre. Puis, après avoir appris l'orfèvrerie, eh bien, il va travailler dans l'atelier du peintre Fra Filippo Lippi, Fra car il s'agit d'un moine qui était au couvent de San Marco, et il y côtoie d'autres grands peintres florentins, Pollaiolo et Verrocchio, qui enseigneront leur art à Léonard de Vinci. En 1470, il obtient le titre de maître qui lui permet d'ouvrir une boutique et de vendre ses œuvres, et il ouvre donc un atelier avec son frère Antonio. Il se fait rapidement connaître, et notamment les Médicis, qui sont la famille qui a pris le pouvoir à Florence, eh bien vont lui commander de nombreuses œuvres. En 1481, sa réputation atteint déjà Rome, puisque le pape Sixte IV l'appelle avec d'autres grands peintres italiens, comme Ghirlandaio, le Pérugin, Cosimo Rosselli, pour décorer les murs de la chapelle Sixtine. De retour de Rome, il se remet au service des Médicis, et en 1482, peint pour le cousin de Laurent le Magnifique, Pierre-François de Médicis, la Villa di Mediceo di Castello. Il y peint le printemps et la naissance de Vénus en 1484. Alors, ce tableau, la naissance de Vénus, eh bien, est un tournant dans l'histoire de l'art. Car il représente, en son centre, une femme entièrement nue. Entièrement nue, mais qui néanmoins, avec sa longue chevelure rousse, cache son sexe. Il s'agit de la Vénus pudique. Avec sa main gauche et ses cheveux, donc elle cache son sexe, et avec sa main droite, elle cache ses seins. Mais on les voit quand même. Cette femme a une attitude de contrapposto, c'est-à-dire que sa hanche part sur la gauche et ses épaules partent sur la droite, c'est ce qui permet de donner du mouvement, de l'animation au personnage. Vénus, déesse de l'amour, est pour les Romains née des flots et du sperme d'Uranos. Ici, on la voit sur un immense coquillage, une coquille Saint-Jacques, symbole à la fois du sexe féminin, mais aussi de la résurrection, qui flotte sur l'eau. Elle est poussée par une légère brise. Légère brise symbolisée par une allégorie, un personnage ailé vêtu d'un manteau bleu à sa droite qui tient dans ses bras une femme, elle aussi ailée. Il s'agit du vent printanier, Zéphyr, et de sa compagne Aura, la brise. Cette brise et ce vent printanier, eh bien, font s'agiter sur l'eau quelques vaguelettes et, autour d'eux, des pétales de rose tombent sur Vénus. La rose, fleur ramenée d'Orient au XIe siècle par les croisés, qui symbolise l'amour. Vénus est en train d'arriver sur une île qui se trouve à sa gauche, où sont plantés des arbres qui ressemblent à des oliviers, et sur laquelle l'attend une femme, rousse elle aussi, mais cette fois-ci vêtue d'un manteau de fleurs, blanc, et qui porte dans ses mains un voile rouge avec des fleurs là aussi dont elle veut couvrir Vénus. Il s'agit de l'une des filles de Jupiter et de Tétis, une heure qui symbolise ici le printemps. Cette femme nue, je vous l'ai dit, on n'en avait pas représenté depuis l'Antiquité dans un tableau, et c'est une audace. D'ailleurs, est-on bien sûr qu'il s'agit de Vénus ? Car les traits de cette femme, on les retrouve dans d'autres tableaux de Botticelli. On les retrouve dans le printemps, sous l'une des trois grâces. On les retrouve dans un tableau qui représente Mars et Vénus en 1480. Et surtout, on le retrouve dans le portrait d'une femme peint en 1476, Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci, surnommée par les Florentins la belle Simonetta. Elle est née à Gênes et a épousé Marco Vespucci, un cousin du navigateur florentin Amerigo Vespucci, qui va donner son nom à un nouveau continent, l'Amérique. Cette femme était réputée pour être la plus belle de Florence et elle devient rapidement la maîtresse de Laurent le Magnifique, Julien de Médicis. Mais elle meurt à l'âge de 23 ans, en 1474, emportée par la peste. Il s'agit donc d'un portrait posthume. Alors vous vous en doutez, cette œuvre ne plaît pas à tout le monde. Et elle ne plaît pas surtout à une partie de l'Église catholique, bien symbolisée par le frère Savonarole, un moine dominicain qui vient s'installer au couvent San Marco et qui en 1494 chasse les Médicis du pouvoir et installe une théocratie à Florence. Il fustige les mauvaises mœurs, les œuvres licencieuses dont cette œuvre de Botticelli et demande à ses partisans d'organiser des autodafés où tous les objets de luxe et les toiles représentant des corps nus seraient brûlés. Botticelli, qui est un adepte de Savonarole, va lui-même porter des œuvres au bûcher. Heureusement, cette toile est conservée dans une des villas des Médicis à l'extérieur de Florence et ne subira pas ce sort d'être détruit sur ces bûchers des vanités tels qu'on les appelait alors. Mais en 1498, le frère Savonarole va trop loin. Non content de s'en prendre aux Médicis et aux mœurs des Florentins, il attaque cette fois-ci le pape et ses mœurs. Il faut dire qu'il s'agit d'Alexandre Borgia. Il est alors excommunié, arrêté et brûlé sur la place de la Seigneurie, à l'endroit même où s'élevait le bûcher des vanités. Après 1498, Botticelli va peindre surtout des œuvres de nature religieuse. Il n'aura plus cette même audace. Et les Médicis ne font plus appel à lui pour décorer leur villa. Il tombe dans l'oubli, devient infirme et meurt dans la pauvreté en 1510. Mais une de ses dernières volontés est exaucée, puisqu'il est enterré au pied de Simonetta Vespucci dans l'église Onisanti. Si un jour vous passez par Florence, allez donc voir la tombe de Botticelli et Simonetta Vespucci, puis rendez-vous à la Galerie des Offices pour admirer la naissance de Vénus, une œuvre qui respire le luxe, le calme et la volupté.